Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est 8h31.
Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et ce matin, notre invité en ce lundi matin est Antoine Kiefer, responsable du Rassemblement National de la circonscription de Dinan. Merci d'être avec nous en direct au micro de Bretagne 5. Bonjour.
Bonjour, merci à vous.
Alors, Antoine Kiefer, beaucoup d'actualités pour le Rassemblement National. Jordan Bardella a pris la suite, on pourrait le dire comme ça, de Marine Le Pen. Est-ce que c'est un grand changement ou est-ce que le changement va se faire en douceur ?
Je pense que c'est un changement, on ne peut pas le contester. Effectivement, Jordan a une image qui est différente, il est plus jeune. Mais au niveau de la proposition politique, de l'instinct politique, je pense que c'est la même chose. C'est l'intérêt national, l'intérêt des Français, du peuple français. Et en ça, je pense qu'on s'inscrit tous là-dedans. Et ceux qui nous rejoignent aussi s'inscrivent là-dedans. Et c'est quelque chose de très important, surtout dans le contexte actuel.
Alors, ceux qui vous rejoignent, il y a beaucoup de personnalités de la droite ou même de simples militants. Alors, quand j'entends la droite, je parle de LR en particulier, qui a aussi élu son président, Éric Ciotti. Beaucoup ont quitté le parti et ont décidé de se tourner vers le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a une recomposition de la droite en France ou un début de recomposition de la droite ?
Il y a une recomposition de la vie politique en général. Marine l'avait impulsé, l'avait prévu. C'était la recomposition autour des patriotes, des nationaux et des mondialistes. Et c'est ce qui se passe. On a d'un côté En Marche, Renaissance maintenant, et nous avons le Rassemblement National de l'autre côté. Les anciens partis disparaissent. On a eu l'élection interne des socialistes qui n'ont pas fait grand bruit, et effectivement l'élection du nouveau président de LR. Mais ces partis-là n'ont pas compris le sens de l'histoire, les impératifs, les choses à apporter dans le contexte actuel, et disparaissent tout simplement.
Le contexte, justement, il est très compliqué aujourd'hui, contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine, toujours et encore, on va en dire un mot tout à l'heure. Et puis, contexte social et économique ici en France et plus largement en Europe, qui est très compliqué aussi. Et ça se traduit d'ailleurs tous les jours sur le terrain avec monsieur et madame tout le monde. On voit l'inflation qui augmente. On nous promet qu'elle va se stabiliser. Qui vivra verra, comme l'on dit. Cette inflation qui agit directement sur la vie des Français et qui se traduit aussi par des hausses, ne serait-ce qu'au niveau de l'énergie. On a vu que le Rassemblement National, et en l'occurrence Jordan Bardella, a écrit une lettre aux boulangers de France. Est-ce que c'était utile d'avoir ce contact direct, finalement ?
Oui, effectivement. Surtout après l'exploit dramatique en ces temps-là, que Emmanuel Macron a su faire, c'est-à-dire inscrire la baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO et en même temps laisser crever les boulangers suite à l'augmentation de l'énergie et à son entêtement idéologique de ne pas vouloir revenir sur l'indexation du prix de l'électricité par rapport au marché européen de l'énergie. Et ça, il va falloir le faire. Falloir le faire très rapidement. Et parce que c'est indispensable, on parle là des boulangers, mais de monsieur et madame tout le monde dans les foyers, mais aussi de nos industries et de nos grosses entreprises qui en pâtissent énormément. J'ai pu discuter avec certains. Si rien ne change, certains sont dans l'objectif d'arrêter leur activité ou de suspendre leur activité. Nous l'avons vu avec la verrerie Duralex, qui fabrique des verres, qui a dû suspendre son activité. Mais c'est le cas pour bon nombre d'autres industries françaises. Et derrière, il y a des emplois. Il y a des gens qui peuvent perdre leur activité, et c'est très grave.
Alors, il y a eu des mesures mises en place par le gouvernement, alors à l'attention des boulangers en l'occurrence, et des TPE. Comment vous les qualifieriez, ces mesures ? Elles sont insuffisantes ? Elles étaient nécessaires ? Elles ont été mal pensées ?
Elles ont été très mal pensées. elles ont été très mal pensées parce que ça ne règle pas le problème. Le problème de l'indexation du prix de l'énergie, surtout de l'électricité, sur le prix du gaz avec le fonctionnement actuel de l'Union européenne. C'est ça qu'il faut changer. Là, on est en train d'aider les boulangers, d'aider les entreprises avec nos impôts. On retarde l'inflation, on retarde le problème, mais ça va nous éclater en pleine figure.
On retarde uniquement le problème. On peut arriver à une récession, selon vous ? Ou une forme de récession ?
Si rien n'est fait actuellement, au vu du contexte très compliqué pour nos entreprises, si rien n'est fait, on va dans cette situation-là. Mais il faut absolument que Emmanuel Macron sorte de l'idéologie, que ceux qui l'entourent sortent de l'idéologie et se remettent eux-mêmes en question et effectivement remettent en cause l'indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz.
Jeudi dernier, Emmanuel Macron a piqué une forme de colère, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, vis-à-vis des fournisseurs d'énergie en disant maintenant stop, ça suffit, il faut discuter. Il y a une discussion qui a abouti à une baisse, ou en tout cas un maintien du kilowattheure industriel aux alentours de 200 euros. Là aussi, on a l'impression qu'on avance, mais par petits pas.
Alors, je vais vous dire quelque chose. Il est toujours plus facile de faire accepter une chose en 10 fois qu'une chose en une fois. Mmh. Ça a été le cas avec la ristourne sur le carburant. On a mis, puis on enlève progressivement jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Et on se rend compte qu'en fait, le prix va être exactement le même, voire plus, sur le carburant qu'au départ de la ristourne. Mmh. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire accepter une chose en 10 fois qu'en une fois. Maintenant, il a montré les gros bras auprès des personnes qui, légalement, sont autorisées à le faire. Mmh. Donc il faudrait également qu'il change la loi et qu'il change les règles et qu'il défende les intérêts des Français. Et c'est bien beau de faire les gros bras devant, devant ses amis et devant les personnes qu'il a autorisées à réaliser des profits et ainsi de suite. Mais ce n'est pas faire de la politique. On est passé d'un état stratège à un état bavard. Mmh. Ces gens parlent. Ces gens parlent pour ne rien faire. Et ça, c'est dramatique.
C'est aussi le ressenti, finalement. On entend beaucoup de critiques lorsque l'on lit les réseaux sociaux, entre autres. Alors évidemment, ce n'est pas forcément toujours bien de lire les réseaux sociaux, mais on y voit quand même une colère, même de gens raisonnables aujourd'hui, qui disent maintenant, stop, ça suffit, on n'arrive plus à se chauffer, même si... Pour l'instant, on a un hiver doux, il faut bien le reconnaître. On n'arrive plus à se chauffer, on n'arrive plus à payer nos factures d'énergie. Et pire encore, et c'est souvent le cas pour les personnes dans la précarité ou les jeunes étudiants qui sont obligés aujourd'hui d'avoir recours aux banques alimentaires ou aux associations, aux Restos du Cœur pour pouvoir vivre. Et on sent une grosse colère qui monte dans le pays. Est-ce que ça vous inquiète, cette colère qui monte, ou est-ce que vous dites finalement c'est le résultat de la politique actuelle ?
Bah effectivement, c'est le résultat de ce qui a été décidé depuis maintenant 10-15 ans, on en a les résultats. Mais tout s'effondre, on parle actuellement de l'énergie, mais au niveau de la santé, tout s'effondre.
Alors justement,
au niveau de la justice,
c'est très bien
tout s'effondre. Au niveau de l'économie, tout s'effondre. Mmh. Et ils sont responsables de ça. Et il va falloir, et j'ose espérer qu'ils le fassent, mais j'en doute... qu'ils se remettent en question et qu'ils mettent en place des choses de bon sens. Les gens veulent du bon sens, des choses simples.
On a oublié le bon sens en politique ?
Actuellement, oui. Actuellement, ceux qui sont en place sont uniquement bridés d'idéologie. C'est tout.
Mais l'idéologie ne fait pas baisser le panier de la ménagère,
non,
par exemple.
Non, l'idéologie ne fait rien baisser, ne règle aucun problème. C'est du pragmatisme qu'il faut.
Alors, un État stratège aujourd'hui, comment il pourrait s'articuler ? Comment on pourrait l'imaginer ?
Eh bien, premièrement, comme on en a parlé juste avant, un président ou un premier ministre qui défend les intérêts de la France et des Français et qui se rend à Berlin et à Bruxelles et qui renégocie le prix de l'énergie et l'indexation du prix de l'énergie, de l'électricité sur le prix du gaz. Aujourd'hui, avec le contexte international actuel, on le sait, le gaz a augmenté et l'énergie, telle que l'électricité, avec les règles actuelles de l'Union européenne, augmente de manière infondée en réalité. Voilà, et rien n'est pragmatique là-dedans. Donc c'est une question de courage politique, c'est une question d'action. Et ces gouvernants qui sont en place en manquent cruellement.
Mmh. Je reviens au boulanger. On a des boulangers qui ferment aujourd'hui leur boutique parce que, bien, ils ne peuvent plus faire face justement à ces coûts de l'énergie. Parfois, ils font faillite. D'autres fois, c'est une décision pensée, imaginée, volontaire, en disant voilà, on peut plus y arriver, on ferme. Une boulangerie qui ferme dans un village, dans une petite commune, c'est aussi la vie qui s'arrête.
Bah, c'est assez dramatique. C'est quelque chose que je pense qu'on peut se mettre dans le contexte d'il y a même quelques semaines ou quelques mois. On aurait dit les boulangers vont fermer. Les boulangers sont dans une situation catastrophique. Personne n'y aurait cru.
Mmh.
Mais en réalité, on se rend compte que les décisions politiques ont un impact sur la vie quotidienne des Français. Ce n'est pas du fatalisme, c'est des résultats de décisions politiques. Et pour changer ça, il va falloir soit que le gouvernement agisse, soit que les personnes votent aux prochaines élections pour des personnes qui ont réellement du pragmatisme et du bon sens.
Je parlais de colère tout à l'heure. On voit les rues qui commencent à s'animer avec une forme de retour des gilets jaunes. Alors, des gilets jaunes, et pas seulement des gilets jaunes, mais aussi de Français qui sont mécontents. Est-ce qu'on s'achemine vers une fin d'hiver sociale agitée ?
Ça pourrait. Les gens sont tellement fatigués, excédés, qu'effectivement, ils pourraient le démontrer dans la rue. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont très, très fatigués et qui n'ont plus l'énergie et l'envie aussi d'aller dans la rue et qui attendent uniquement une chose, c'est les prochaines élections, car c'est ça qui permet de changer les politiques en place. Chaque personne qui vote est un sociétaire de l'entreprise France. C'est eux qui décident de reconduire ou de licencier des personnels politiques qui sont inconséquents et qui sont actuellement incapables. Donc effectivement, je pense que les gens, on le voit dans les sondages qui augmentent pour notre part, attendent les prochaines élections pour exprimer leur point de vue et effectivement voter. C'est ça la solution.
On voit aujourd'hui dans le paysage politique un clivage, on en parlait en commençant, de plus en plus fort finalement, entre la gauche, j'allais dire la gauche de la gauche, LFI, la NUPES pour la cité. De l'autre côté, à droite, on a le Rassemblement National. Est-ce qu'on s'achemine aussi vers une confrontation d'idées ou certaines convergences? On a vu lors des derniers débats à l'Assemblée nationale qu'il y avait aussi des points de convergence. Alors peut-être que certains derrière leur micro vont hurler, mais derrière leur transistor en l'occurrence vont hurler. Est-ce que parfois il est possible que des idées convergent et qu'on puisse dégager une majorité entre
c'est,
deux partis finalement très éloignés?
C'est ce qu'on appelle le pragmatisme. On a des visions différentes, des projets différents, mais il y a des propositions point par point qui peuvent être similaires. Je prends l'exemple de la réintégration du personnel soignant.
Mmh.
Eh bien, LFI avait la même vision et nous avions la même vision. Nous avons proposé à LFI de leur consacrer, lors de la niche parlementaire de ce jeudi 12 janvier, du temps de parole afin de défendre la proposition de Madame Fiat de la réintégration du personnel soignant. Ils l'ont refusé.
Mmh.
Ils l'ont refusé. Et c'est là qu'on voit qui souhaite réellement défendre l'intérêt des Français et qui est dans un jeu politique, un jeu partisan. Et les Français le voient, les Français l'observent. Et nous augmentons dans les sondages et nous augmentons à chaque élection. Parce que nous sommes pragmatiques et que nous souhaitons le bien de l'intérêt des Français et de la nation.
Aujourd'hui, le Rassemblement National, autrefois le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National ne fait plus peur finalement?
Non, parce qu'on a démontré notre sérieux. Nous avons réussi à montrer également quelles étaient nos idées et pas les caricatures de nos idées. Et une fois que vous avez sur une proportion de personnes de plus en plus qui sont acquis à ces idées, qui défendent ces idées, eh bien, ça fait boule de neige. Les gens en parlent autour d'eux, les langues se délient, les conversations se font, et effectivement, les gens observent du bon sens dans nos idées, dans nos propositions, et une certaine rigueur, un certain respect dans nos actions et dans notre posture politique.
Vous parliez de la santé tout à l'heure, j'y reviens. Aujourd'hui, on a un système de santé au bord de l'implosion qui ne peut plus fonctionner. On a entendu sur notre antenne les médecins généralistes qui se sont mis en grève, les laboratoires qui sont en grève actuellement. Là aussi, on craint une implosion, une chute de notre système de santé qui était pourtant cité en exemple.
La chute de l'escalier de la santé est déjà amorcée depuis un long moment. Là, en fait, on arrive à une situation qu'on ne peut plus cacher, tout simplement. La situation de l'hôpital public, de notre personnel soignant, est catastrophique depuis un bon moment.
Il y a une grande souffrance.
Il y a une grande souffrance, mais c'est le résultat, pareil, de décisions politiques depuis plusieurs décennies. Ça n'est pas d'hier. Et on arrive aujourd'hui à une situation, comme je le disais, qu'on ne peut plus cacher, où dans un hôpital, il y a quelques jours de cela, ou la semaine dernière, on avait l'hôpital de Fréjus, voilà, on avait 80 personnes dans les urgences pour 40 places, où une personne témoignait qu'elle avait une colique néphrétique, elle était là depuis 8 heures avec des antidouleurs. Mmh. On est dans une situation catastrophique, mais tout ça résulte de décisions politiques.
Il fallait maintenir des petits hôpitaux de campagne, il fallait
absolument
développer la médecine de campagne.
Développer la médecine de proximité, à certains moments également revoir le numerus clausus, toutes ces choses qui ont pris du retard, qui n'ont pas été faites. Et puis, effectivement, là actuellement, réintégrer le personnel soignant qui a été mis de côté de manière assez incomprise par les gens, et il s'agit de milliers de personnels soignants. Nous en avons besoin, et remettre sur pied financièrement, structurellement, l'hôpital public.
On va changer de sujet, Antoine Kiefer. Je le disais, on le constatait en commençant, la guerre en Ukraine se poursuit avec son lot de malheurs, ces populations qui vivent une guerre finalement qui n'est pas de notre siècle. On a beaucoup reproché au Rassemblement national d'être plutôt pro-Poutine. Alors voilà, je lance le mot, vous allez pouvoir nous répondre évidemment. D'abord, est-ce que c'est exact ou est-ce que la France ne devait pas prendre parti dans cette guerre?
Alors c'est inexact, et je vais vous expliquer très concrètement pourquoi. Nous étions pour des sanctions. Nous étions pour des sanctions qui ne portaient pas atteinte à nos intérêts, ce qui est le cas actuellement. On parle du gaz. Nous n'étions pas favorables à des sanctions sur le gaz, car nous savions qu'avec des sanctions, le gaz allait augmenter, que notre électricité basée sur le marché européen de l'électricité est basée sur le gaz, et que nous avons aujourd'hui des prix exorbitants. On ne va pas refaire la description, on sait les conséquences économiques que ça a. Aujourd'hui, la Russie revend le gaz à l'Inde, et l'Inde nous revend le gaz. Voilà, donc en fait c'est une conséquence d'une décision politique qui n'avait aucun sens. Ça a été pris, ça a été fait. Ça a des conséquences néfastes, nous étions opposés. Et on voit à nouveau là le pragmatisme qui est le nôtre. Et la seule agitation politique qu'ils peuvent faire, c'est dire que nous sommes pro-Poutine. Non, nous défendons l'intérêt des Français. Et uniquement cela.
Il fallait éviter donc cet embargo, on va l'appeler comme ça. Mais comment faire pour ne pas alimenter les caisses de Poutine pour faire la guerre aux Ukrainiens ?
Eh bien là, on a fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait augmenter le gaz et on a fait rentrer encore plus d'argent dans les caisses de la Russie. Ce qu'il faut faire, c'est défendre nos intérêts, défendre effectivement l'intérêt de la paix. À certains moments, il aurait fallu également privilégier un peu plus de diplomatie. peut-être réserver certaines phrases choc au placard pour le maintien d'une paix.
Plus de diplomatie, moins de communication finalement.
Voilà.
On a entendu le président de la République, avant d'ailleurs les Allemands et les Américains, il aura un peu grillé la priorité si j'ose dire, décider que la France livrerait des armes, en tout cas des véhicules blindés rapides, à l'armée ukrainienne, véhicules qui vont être remplacés par d'autres modèles ici en France. Est-ce que là aussi c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée ?
C'est pareil, c'est une fausse bonne idée. Premièrement parce que nos intérêts ne le permettent pas. La situation de notre armée est à l'os, on le sait depuis très longtemps, et on livre des armes qui sont des fois sophistiquées pour la guerre en Ukraine. Encore une fois, on ne peut pas et être sur le terrain de la diplomatie et de la paix, envenimé par certaines phrases qui n'ont pas leur utilité dans le champ politique, ce conflit, et en même temps livrer des armes dans un conflit avec l'Ukraine et la Russie. Il faut privilégier la diplomatie toujours quand c'est possible. Toujours quand c'est possible, privilégier la diplomatie.
Il y a cet appel du président Zelensky en Ukraine, hein, qui est allé rencontrer Joe Biden. Il y a cet appel vraiment prégnant à l'Europe en disant voilà, il nous faut des armes, il faut qu'on arrive à vaincre, il faut qu'on retrouve nos territoires, il faut... Là aussi, on oublie de rappeler au président ukrainien que la diplomatie est importante.
La diplomatie est importante. Et on l'a vu sur les plateaux, certains invités, les va-t-en-guerre, comme on peut les nommer, rouler des mécaniques, faire des démonstrations de petits guerriers avec des photos et des vidéos sur place, je pense que ça n'a pas grand intérêt au retour de la paix, parce que c'est ça en réalité qu'il faut retrouver, c'est la paix, le calme, la sérénité. Et il faut absolument, à nouveau, privilégier le chemin de la diplomatie.
Alors avec une Russie qui a des appuis quand même si la Chine a dit non, la guerre non, mais on voit la Corée du Nord qui est quand même relativement dangereuse et un peu incontrôlable, on voit quand même une base géopolitique qui bouge beaucoup. On voit les États-Unis évidemment qui là se sont dévoilés, on dit voilà, on aide l'Ukraine, l'Europe qui a dit on aide l'Ukraine. Est-ce qu'on avait raison que ce soit les États-Unis ou l'Europe d'aider l'Ukraine déjà pour essayer de faire en sorte que le peuple souffre moins?
Alors oui, on peut aider l'Ukraine, on peut leur apporter des besoins importants, des besoins vitaux. Mais encore là, ce n'est pas la situation d'apporter des armes qui participent au conflit de guerre. Il y a aider la population, ça c'est une chose, et il y a aider à la participation de la guerre, de la guerre armée. Et dans ce cas-là, je pense que c'est une fausse bonne idée d'avoir livré des armes. Nous aurions dû, et nous devons le faire encore, développer et impulser notre diplomatie à l'égard de ce conflit qui est important et qui a des répercussions, on le voit, sur notre économie et sur nos entreprises et sur... Monsieur et Madame tout le monde.
Alors aujourd'hui, il y a aussi un autre conflit interne, cette fois-ci en Iran, avec la jeunesse iranienne qui se soulève pour obtenir plus de liberté, pour sortir d'une forme de théocratie. Ceci dit, voilà, aujourd'hui, l'Iran est aussi un puissant allié de la Russie. Comment parler diplomatiquement aux deux pays sans froisser l'un et l'autre et en essayant, là encore, de ne pas déclencher de conflit ?
Nous l'avons toujours fait. On va remonter quelques années en arrière. Mais lorsque De Gaulle, lorsque d'autres présidents par la suite étaient au pouvoir et qu'il y avait des pays avec des dirigeants qui n'étaient pas forcément des personnes élues démocratiquement, qui n'étaient pas forcément des gens avec une réputation très stable, nous avions fait fonctionner notre diplomatie. La diplomatie, c'est un jeu... économique, c'est un jeu d'intérêt stratégique, c'est ce qui permet au peuple d'être épargné de la guerre armée. C'est très important, c'est une guerre souterraine. C'est une guerre tranquille, mais c'est un levier qui est extrêmement important. Surtout pour des puissances comme la nôtre, qui sont encore dans des rangs suffisamment élevés au niveau international. Donc effectivement, pour à revenir à la paix, revenir à la sérénité, il faut faire fonctionner la diplomatie. Que les gens comprennent bien, la diplomatie, ça n'est pas juste une conversation entre chefs d'État. C'est des intérêts contre des intérêts. Mais encore une fois, ce mode de fonctionnement permet aux populations d'être épargnées des drames et des conflits qui sont tragiques.
Il nous reste une minute, Antoine Kiefer, notre réalisateur est intraitable. Une minute pour aussi parler d'une guerre qui peut avoir des conséquences importantes dans les pays européens et ici en France. C'est la cyberguerre. Elle est déclenchée. On voit des hôpitaux qui sont régulièrement attaqués de façon cybernétique et qui sont rançonnés pour récupérer leurs données. Est-ce que là aujourd'hui la France est en retard ou est-ce qu'elle doit miser sur justement se protéger son économie, protéger son système, ses systèmes également.
Elle est en retard. L'Europe est en retard. Quand l'Union européenne décidait de légiférer sur la taille des béquilles de moto, de la courbure des bananes, elle aurait peut-être dû effectivement partir sur des projets qui sont quand même plus importants. Encore une fois, c'est du ressort aussi de l'État stratège. J'en reparle, je le répète. État stratège, vision d'avenir. Et là, nous avons un temps de retard sur les nouvelles technologies et sur l'indépendance numérique. Et il va falloir y remédier, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, parce qu'il en découle de notre sécurité personnelle. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont numérisées et nous devons impérativement déclencher et amorcer ce gros chantier qu'est le numérique.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Antoine Kiefer, responsable du Rassemblement National de la circonscription de Dinan, vous êtes venu ce matin en direct au micro de Bretagne 5. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous, de même.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.